Après Pâques, nous avons décidé de nous intéresser à quelques disciples, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, quelques parcours qui nous sont relatés dans les évangiles notamment, mais aussi dans notre partie du Nouveau Testament, pour voir comment ces personnes, ces êtres humains, comme vous et moi, comment ces personnes ont été porteurs de vie. Parce que c'est ainsi que j'aurais envie de les qualifier, de résumer leur action. Car ce sont elles et eux qui ont porté le message de la résurrection de Jésus. Ce sont elles et eux qui bien souvent ont assumé leur rôle, un peu malgré eux, d'être là des témoins de cet événement extraordinaire, de cet événement qui nous dit que la vie, de manière définitive, a vaincu la mort. De manière définitive, la vie a vaincu la mort. Et pour transmettre ce message capital, notre Père a choisi des êtres humains comme vous et moi, des êtres humains au départ complètement anonymes et qui sont devenus des gens, comme nous allons le voir ce matin, extrêmement connus, des personnages, je dirais, massifs. Tout début, tout a commencé de manière anonyme, je vous l'ai dit, et c'est peut-être pour cela que nous pouvons facilement, même s'il y a des exigences, mais nous pouvons vraiment nous identifier à ces personnes-là, nous placer dans leurs pas, pour à notre tour, là où nous sommes, plus en Palestine, mais ici en Suisse, à Nyon, ou où que vous soyez sur la surface de cette terre, que nous puissions nous placer dans leurs pas pour être porteurs à nous et à notre tour de cette bonne nouvelle et d'être à notre tour porteurs de vie. Nous nous sommes posé la question lors d'un culte précédent de savoir ce que la résurrection, ce message de vie qui surpasse la mort, qu'est-ce que la résurrection changeait dans ma vie de tous les jours. Et je crois que cette série de prédications permet de creuser cette réalité, d'aller chercher et surtout peut-être d'aller nous chercher sur cette question de la résurrection pour discerner en quoi elle impacte notre manière d'être au monde. Et à travers cette série de portraits de témoins, nous observons que la résurrection du Seigneur Jésus s'inscrit non seulement dans l'histoire avec un grand H, mais elle s'inscrit surtout dans des histoires personnelles, dans des témoignages de vie, dans nos témoignages de vie. Et c'est toujours une grâce de se rendre compte que la puissance de la résurrection fait que ce matin, je suis loin d'être le seul avec vous tous derrière ma caméra, mais nous sommes des millions à marcher dans les pas à la suite de ces disciples, porteurs de vie et porteurs de cette résurrection. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, cette question. Si on la pose comme ça, on se rend compte que la réponse n'est pas comme ça donnée de manière très très claire. Et la théologie le dit bien, je vous l'ai dit, partager cette citation il y a 2 semaines, je vous la repartage ce matin, qui nous dit que les preuves de la résurrection de Jésus sont tellement fortes que personne ne songerait à les remettre en cause, à 2 exceptions près. La première, c'est un événement très inhabituel. Et la deuxième, c'est si l'on croit qu'il a eu lieu, cela implique de changer notre manière de vivre. Ça nous enlève un peu de pression parce qu'effectivement, l'événement reste complètement inhabituel, reste au-delà finalement de ce que nous pouvons expliquer, penser. Et puis, deuxièmement, il est un peu dérangeant parce qu'on n'aime pas tellement être changé, déplacé dans nos habitudes. On aime bien une certaine sécurité. Et là, on va le voir de nouveau ce matin avec un disciple qui s'appelle Pierre. On va voir qu'il a dû être déplacé, qu'il a dû changer. Et changer de perspective, pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, mais plusieurs fois au cours de sa vie. Alors, que nous puissions vivre ce parcours avec Pierre, avec ces questions de savoir comment cette résurrection, à notre tour, s'inscrit-elle dans nos vies, comment est-ce qu'elle nous influence, pour finalement nous poser cette question centrale que je nous laisse, et à moi le premier, en quoi est-ce que je suis porteur de vie dans ma vie de tous les jours? En quoi est-ce que je suis porteur de vie dans ma vie de tous les jours. Pour nous inspirer ce matin, Pierre, personnage massif, personnage haut en couleur. Le but est de pouvoir discerner quelques caractéristiques inspirantes qui émanent de son parcours de vie. Caractéristiques qui peuvent, à notre tour, nous entraîner, nous inspirer dans notre identité de témoin du Christ vivant. Mais avant toute chose, il me paraît important de poser une précision essentielle. Sans quoi, on risque de faire fausse route et sans quoi, on risque de faire fausse route presque de manière un peu tragique. Parce que si on reste trop scotché, entre guillemets, sur les caractéristiques qui sont celles de Pierre, des caractéristiques dans lesquelles on peut se retrouver d'une certaine façon, des caractéristiques assez humaines, on va faire fausse route parce qu'on oublie un événement essentiel qui a influencé profondément sa manière d'être. C'est effectivement la résurrection du Christ, le matin de Pâques, nous allons le voir tout à l'heure. Et c'est également son expérience décisive racontée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. À ce moment-là, il est quelque temps après la résurrection, c'est la Pentecôte que nous fêtons dorénavant. Mais pour le moment, ce n'est pas encore la Pentecôte. Ils sont simplement dans une pièce, on dit que c'est une chambre haute. Et puis, ils sont un peu dans le désarroi à savoir comment ils vont pouvoir intégrer cette réalité de la résurrection. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe dans leur vie. 40 jours ou 50 jours plus tard, je ne sais plus par cœur, il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Et là, dans cette chambre haute, ils reçoivent la visite extraordinaire du Saint-Esprit qui descend sur eux et qui va descendre en particulier sur Pierre qui, à la suite de ce moment spécial, de cet événement extraordinaire dans la chambre haute, va descendre dans les rues de Jérusalem et il va commencer à prêcher et à annoncer en quoi la résurrection de Jésus change le cours de l'histoire d'Israël, mais change le cours de l'histoire tout court. Donc s'attarder, comme nous allons le faire ce matin, sur les caractéristiques humaines de Pierre, c'est s'attarder sur ces caractéristiques transformées par l'action du Saint-Esprit. Et je crois qu'il en va de même pour nous. Et la première chose, le premier élément à mettre en évidence, comme le sommaire de tout ce que nous allons partager ce matin, c'est de se dire que cette forme d'accueil du Saint-Esprit prime sur tout le reste. Ce n'est pas parce qu'on va avoir les différentes caractéristiques de Pierre que nous allons être des témoins à la suite du Christ, mais c'est parce que premièrement nous accueillons cette puissance décisive de l'Esprit dans nos vies, parce que nous sommes disponibles à cette puissance-là, que nous allons pouvoir mettre en œuvre ces caractéristiques. Ensuite, ces caractéristiques nous aident, parce que je pense qu'elles nous inspirent, elles nous tirent en avant, et que nous sommes aussi faits de pâte humaine, et que nous avons besoin de cela pour aller de l'avant. Voyez-vous, l'un et l'autre essayent de se marier au mieux, parfois ça passe là, puis là, l'Esprit passe là, puis nous sommes là avec notre pâte humaine. Notre but en tant que croyants, c'est d'essayer ce mariage le mieux possible, nos caractéristiques humaines, ce que nous pouvons faire de notre côté, et notre accueil de cette puissance qui vient d'en haut. Pierre, je disais donc, un personnage haut en couleur, un personnage massif. Parce que quand on pense à Pierre, en tout cas moi, je pense au trône de Saint-Pierre. Toute l'histoire des papes, toute l'histoire du Vatican, de cet État quand même assez particulier, qui reste encore maintenant bien souvent le visage de la chrétienté. J'ai aussi été à Rome il y a quelques années et c'est vrai que de visiter la basilique Saint-Pierre, ça reste un événement, ou ça reste pour moi un événement majeur. On ne peut qu'être fasciné face à la grandeur de l'édifice, la beauté, imaginer, si on peut, essayer d'imaginer l'énergie qu'il a fallu pour construire tout cela, avec tous les scandales qui s'ensuivent, peut-être même une conséquence heureuse, c'est l'apparition de la réforme, je ne sais pas, là je prends des risques, mais de se dire que il y a eu une mobilisation phénoménale et que cette basilique porte le nom de ce personnage tout d'abord anonyme dans une région de Galilée. Alors, je suis bien content que je suis conscient que je suis sur une pente assez glissante, là, en parlant des édifices, des cathédrales, même du catholicisme. On est un peu sur une pente glissante parce qu'on peut aimer ou ne pas aimer cette histoire. On peut la trouver complètement néfaste pour le christianisme. On peut la trouver très positive pour le christianisme. Je crois quand même que c'est assez contrasté. Mais toujours est-il qu'on se rend compte, à travers ces éléments-là, qui sont purement objectifs, que nous sommes passés du témoignage d'un seul homme, un, accompagné de 12 autres disciples, ça reste des chiffres qui sont terriblement petits, terriblement modestes, de un disciple à un bâtiment comme la basilique Saint-Pierre qui a mobilisé des milliers et des dizaines de milliers de personnes et qui reste là comme l'un des monuments les plus visités, pas aujourd'hui, mais normalement. Alors comment est-on passé d'un simple homme perdu dans une contrée anonyme, au pape François, par exemple, qui reste l'une des personnalités les plus écoutées dans le monde actuellement? Comment passe-t-on d'un simple homme perdu dans une contrée anonyme à la basilique Saint-Pierre? Je ne vais pas vous donner la réponse ce matin, hein, évidemment pas, parce que c'est un peu compliqué, mais de vous dire que la résurrection, juste en pensant à ce que je viens de poser comme question, elle a un impact incroyable. Elle a un impact qui a changé le cours des choses. Et là, on le voit. Et tout commence ce matin de ce qui va devenir la fête de Pâques. Pour le moment, il n'y a pas de Pâques avec un S. Il n'y a rien du tout. Il y a juste des femmes qui reviennent vers leurs amis et qui leur transmettent ceci. Ces femmes, elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11. On voit que Judas a disparu, et à tous les autres. Ces femmes, c'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques, et les autres avec elles. Et elles dirent ce qu'elles avaient vu, c'est-à-dire ce tombeau vide, cette apparition de deux hommes vêtus de blanc, et elles le dirent aux apôtres. Réaction magnifique des apôtres, puisque ces paroles leur parurent quoi? Une niaiserie, c'est-à-dire une idiotie, quelque chose de complètement futile. Et ils ne crurent pas les femmes. C'est clair. Pourtant, Pierre se lève. Et Pierre, il court au tombeau. Et quand il y arrive, en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui. Il ne retourne pas vers les autres, il va chez lui, s'étonnant de ce qui est arrivé. Et là, on voit une première caractéristique de Pierre. On voit une première caractéristique de l'homme qui écoute l'information, qui écoute ces femmes qui viennent vers lui, qui considère aussi certainement comme tous les autres que c'est des niaiseries, mais il est quand même un tout petit peu titillé. Il se demande, est-ce que finalement, elle raconterait quand même pas autant n'importe quoi que cela? Et une des caractéristiques, c'est qu'il se met de suite en route, il se met de suite en mouvement. Et pour moi, si je devais retenir une caractéristique de Pierre, c'est que c'est un homme d'action. Comme si pour lui, l'expérience prime sur la réflexion. C'est un peu caricatural. Mais il ne réfléchit pas de midi à 14h pour savoir s'il va vérifier ou pas ce que les femmes ont dit. Il n'intériorise pas directement pour réfléchir ce qu'il pourrait croire ou ne pas croire, il va et puis il essaye d'aller vérifier. Il court même. Il se déplace en courant au tombeau. Et là, il voit qu'elles ont raison. Que le tombeau, comme on l'a vu dans la petite vidéo de Daniel, que ce tombeau, il est vide. Que ce tombeau, il ne voit que des bandelettes qui traînent. Le choc est immense. On nous dit que Pierre est étonné. Dans le vocabulaire biblique, quand on nous dit que quelqu'un est étonné, c'est qu'il est vraiment étonné. Ce n'est pas juste un petit étonnement, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est un étonnement profond qui le touche jusque dans ses entrailles. Et la preuve que ça le touche profondément, lui, l'homme d'action, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de se retrouver seul. Il a besoin de rentrer chez lui pour essayer d'intégrer ce qui s'est vécu pour lui. Pierre, l'homme d'action, est l'homme qui expérimente peut-être avant de réfléchir à toutes les conséquences de ce qu'il a expérimenté. Pierre, c'est aussi l'homme d'action lorsque, dans Matthieu 16, Jésus pose la question à tous les disciples, aux 12 disciples, et il dit Jésus à ses disciples, et pour vous, qui suis-je? Et là, parmi les 12, le premier qui répond, de nouveau, direct, homme d'action, il lui dit, Simon Pierre lui répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confession de foi extraordinaire où Pierre ouvre les yeux, se lance et reconnaît Jésus comme qui il est vraiment, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et Jésus lui répond, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, il n'est pas encore Pierre là, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On retrouve déjà ces révélations du Saint-Esprit qui se manifestent de manière plus concrète à la Pentecôte, mais qui est déjà présent dans toute l'histoire de Pierre et dans toute l'histoire du monde. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. De nouveau, la vie plus forte que la mort. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On va pas s'attarder au niveau exégétique sur ce texte qui est très très lourd de signification. On pourrait faire plusieurs soirées de prédication là-dessus. Mais pour souligner là de nouveau la réalité de cet homme d'action. Sur les 12, c'est lui qui s'engage, c'est lui qui y va. Il affirme, oui, Jésus, tu es le Christ. Puis dans notre inconscient, si on est habitué au message biblique, peut-être que vous y êtes habitué, peut-être que vous allez découvrir la réalité ce matin. Pierre aussi, c'est celui qui va, lorsque les choses vont commencer à monter en tension lors de la mort de Jésus-Christ, c'est celui qui va tout à coup oublier ces paroles si fortes qu'il vient de prononcer. C'est celui qui tout à coup va se dire non, ce Jésus, je ne le connais pas, lorsqu'il sera mis sous pression. Cette magnifique confession de Jésus, toi tu es le Christ, quelques temps plus tard, va se transformer en une affirmation tout aussi directe et aussi claire. Non, ce Jésus, je ne le connais pas. Pierre, il est pris dans le tumulte lors des événements de la Pâque. Là, on a vu avec la vidéo de Daniel qu'il y a une certaine tension qui monte, qui monte, qui monte. Tout Jérusalem est en ébullition avec ce procès qui culmine dans cette question que Pilate pose à tout le peuple, savoir s'il veut libérer un criminel, Barabbas, un criminel de droit commun, ou s'il veut libérer Jésus qui est innocent de tout. Et là, la foule en délire, dans ces mouvements de foule qui font frémir, toute cette foule, tout ce peuple, duquel fait partie Pierre, hein, il fait partie de ce peuple juif, déclare, nous voulons mettre à mort Jésus. Et ensuite, la foule se disperse, le jugement est rendu, Pilate, dans cette phrase célèbre, s'en lave les mains. Et puis Pierre se retrouve dans les alentours, autour d'un feu. Et puis par trois fois, une personne, dont une dame inconnue, lui pose la question, mais il me semble que je te reconnais, toi. Il me semble que tu faisais partie de ce groupe qui était avec Jésus et puis qui le suivait, qui suivait ses enseignements. Et Pierre, là, certainement submergé par quantité d'émotions, devient cet homme de paradoxe puisqu'il dit, non, non, moi je ne le connais pas. Ni vu ni connu, jamais connu cet homme. Je n'ai jamais fréquenté cet homme. Je ne vois pas ce que tu racontes. Donc il met en défaut les interlocuteurs et les interlocutrices qui lui posent cette question, mais toi tu étais avec. Et là, on découvre une autre facette de Pierre. On découvre cet homme un peu lâche, cet homme submergé par la peur, cet homme qui finalement est pris par ce courant fort, hein, très fort courant populaire là, qui l'entraîne, même lui, ce personnage massif, à renier son Sauveur et Seigneur, à renier même plus son ami, cette personne avec qui il a changé sa vie, avec qui il a passé les 3 dernières années de sa vie. Ce soir-là, par trois fois, il renie son existence avec Jésus. Donc on est là avec cette réalité d'un homme finalement, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Parce que si on y regarde bien, si on y regarde de plus près, on ne peut que se rendre compte que nous sommes à notre tour aussi assez pétris de paradoxes, hein. Assez pétris d'incohérences, de choses qui vont plus ou moins bien. Et là, je crois que Pierre, il en fait la cruelle expérience. Finalement, on se rend compte que Pierre nous ressemble, qu'il est un peu comme nous, où ces deux éléments se mélangent, car il est difficile, voire impossible, d'être dans l'action sans être un poil paradoxal, ou sans être même bien paradoxal. Il est impossible de se lancer comme Pierre se lance, sans prendre le risque d'être un peu à côté de la plaque. Et en cela, il nous rejoint bien dans notre statut, dans notre identité de témoin et de porteur de vie. Nous devons consentir à être des êtres paradoxaux, sans pour autant renoncer à des êtres d'action. Et je pense que là, on est pris dans cette belle tension qu'on a besoin de pouvoir expérimenter. Et c'est une des clés que je nous lance. Ne cessons de grâce d'être des êtres d'action parce que nous voyons nos paradoxes. Nous pouvons apporter nos paradoxes et continuer à être des êtres d'action. Et finalement, Pierre nous laisse deux lettres. Deux lettres tout simplement intitulées 1 et 2 Pierre. Et la première commence ainsi. Il écrit à toute une quantité de communautés, d'églises locales comme la nôtre. Il nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion. » Puis alors après, il égrène les différents endroits où ils sont, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés, donc les églises locales, les communautés locales, et les élus qui sont dans ces églises, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Est-ce que nous pose cette question-là? Comment est-ce que je réagis à cette salutation? Est-ce qu'elle me concerne? Est-ce qu'elle nous concerne toujours? Est-ce qu'elle nous impacte aujourd'hui, en ce 3 mai 2020? Comment est-ce que je réagis quand je suis traité en tant qu'élu et disciple du Christ comme étant étranger dans la dispersion? Il est bien sûr question d'autre chose que de la peinture que vous avez refaite dans votre salon pendant ce temps de confinement. Dans la dispersion, c'est-à-dire d'être réparti de gauche et de droite. Et je crois qu'elle nous concerne toujours cette appellation d'être étranger dans la dispersion. Tout simplement car c'est Dieu lui-même qui s'est choisi un peuple auquel nous appartenons. Et cette appartenance prime sur une quelconque autre appartenance. Elle prime sur notre appartenance nationale, et ce, dès le début de l'Église. Elle prime même sur notre appartenance familiale. Et Paul, ensuite, dans la suite, joue exactement sur les mêmes appartenances où notre appartenance au Christ est centrale. Pierre, Paul, tout le Nouveau Testament sont sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et cela implique que nous sommes différents. Nous sommes étrangers au reste du monde. Et déjà, nos prédécesseurs, nos témoins qui nous ont précédés sur ce chemin, en Bithynie, en Cappadoce, ont pu expérimenter, et je dirais même ont dû expérimenter cette réalité. Alors à notre tour, nous sommes étrangers au Canada, en Suisse, en France, en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce n'est pas si facile comme pour la résurrection à assumer. Car l'étranger, surtout dans nos pays occidentaux, c'est clairement une appellation à éviter. C'est clairement une appellation qui est négative. Souvent, l'étranger, c'est l'autre, celui que je mets à distance. C'est surtout pas moi. En particulier si ma famille est établie depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années dans tel ou tel endroit, tel ou tel pays, tel ou tel village, tel ou tel coin de terre. Si elle ajoute encore que l'étranger actuellement cristallise, voire polarise le débat dans nos sociétés, porter cette étiquette en tant que chrétien n'est donc pas une chose aisée, loin s'en faut. Quant à l'assumer, il ne faut même pas trop y penser. C'est-à-dire que l'exigence contenue dans cette lettre de Pierre est forte. Et je trouve que l'écho avec l'épisode du reniement est tout à fait interpellant. De savoir que c'est Pierre, celui qui, lors du reniement, quand la pression sociale a commencé à monter, c'est le même qui écrit cette lettre C'est tout à fait interpellant. C'est comme s'il avait mûri. C'est comme s'il avait passé un cap supérieur dans la croissance, de reconnaître que lors du reniement, il s'est fait prendre par le courant. Il n'a justement pas été étranger dans son propre peuple. Et que quelques années, je ne sais pas, peut-être dizaines d'années plus tard, il peut écrire cela. Ça nous dit énormément de choses sur notre capacité et sur la capacité de croissance de chaque disciple. Et je trouve ça magnifique et presque émouvant de se rendre compte que cet homme qui a été pris par le courant, qui n'a pas supporté la pression du groupe, et c'est tout à fait normal, cet homme, non seulement on le voit dans Jean 21, il est repêché par Jésus lui-même, mais cet homme, il peut écrire quelques années plus tard cette magnifique lettre avec en entête, et c'est le seul qui le met comme ça en entête, à vous qui êtes étrangers. Je crois qu'il a intégré profondément cette réalité qu'en tant que disciple du Christ, en tant que témoin de la résurrection, nous sommes un peu étranges. Nous sommes un peu étrangers par rapport à la société qui nous entoure. Plus qu'un être paradoxal, donc, je crois que Pierre nous donne l'exemple d'un être qui mûrit, un être qui grandit par l'expérience et un être qui grandit par son attachement au Christ. Il en va de même pour nous. Nous sommes des êtres croyants en croissance. Alors, comment être porteur de vie et comment continuer de croître en acceptant d'être étranger, en acceptant d'être dans la dispersion? Les deux vont ensemble. Être étranger, c'est consentir à être étrange, comme croire en la résurrection. Être dans la dispersion nous parle certainement de manière particulière ces temps. Et je pense que ce temps de crise, définitivement, peut être un temps de croissance qui nous pousse dans cette direction d'intégrer la résurrection plus profondément dans nos vies. Alors, frères et sœurs, ayons le courage d'assumer nos paradoxes et ayons le courage d'assumer notre statut d'être étranger, donc étrange dans ce monde. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite ce matin, et que Pierre puisse nous servir d'exemple dans cette direction-là. Amen.